Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
Bonjour, je suis Manu Constant, membre fondateur du Bazar Nahom, membre de la compagnie Jossature et de Radio Bazar Nahom.
La structure, elle existe depuis plus de 20 ans, presque 25. On est ici dans le troisième lieu, c'est pour ça qu'on l'a appelé le B3. Et moi, dans ce collectif, j'ai toujours eu un rôle très polyvalent. Je fais plusieurs choses, parce que c'est un peu le cas de tous les membres du collectif Bazar Nahom. Il y a d'abord une grande pluridisciplinarité qui fait partie un peu du fonctionnement de base du lieu. Donc je suis à la fois membre d'une compagnie qui fait partie des structures accueillies au Bazar Nahom, et je suis aussi responsable de la radio, de Radio Bazar Nahom, qui existe, qui a le même âge que le collectif. Et puis il y a d'autres petits rôles annexes comme ça qu'on se donne dans le fonctionnement du lieu. Moi, je suis aussi ensemblier. Alors ensemblier et amateur. Ensemblier, c'est celui qui fournit tout le mobilier sur les tournages, c'est comme ça que ça s'appelle. Le mobilier qui est très proche de l'équipe déco, etc. Et ici, ben, je collecte des objets de décoration, du mobilier, toutes sortes de choses qui peuvent aider à embellir le lieu qu'on veut toujours plus beau et toujours plus esthétique. C'est un peu aussi un point d'ancrage pour le collectif Bazar Nahom de faire du beau. Et donc j'aide à ça en faisant l'ensemblier amateur. Bien gentiment, c'est comme ça que les amis m'appellent. L'ensemblier, ça me fait très plaisir. Voilà, ça c'est les petites tâches subalternes. En plus, bien de la régie sur le bal monté, bien sûr, dans l'accueil de résidence. Et puis de tout un rôle de médiation sur les diverses activités très polyvalentes qu'on mène ici. Bah, les problèmes qu'on a, c'est les problèmes d'un collectif qui se construit et qui essaye d'évoluer constamment. Il y en a un qui est vraiment qui est pas réellement un problème, qui est plus un état de fait, c'est que on est un collectif qui a de l'âge, qui a plus de 20 ans, comme je vous l'ai dit, et que du coup se pose la question, forcément, étant donné l'investissement que demande un collectif comme celui-là au quotidien, se pose la question de la relève, de la transmission. Alors c'est pas réellement un problème, c'est juste que tout de suite ça nous occupe énormément, parce que on est un certain nombre à ressentir le besoin de mener une vie un peu plus tranquille vu notre âge, et qu'on souhaite absolument transmettre cet outil collectif. Il s'agit pas de claquer des doigts et ça se fait pas tout seul. Donc on essaye de mettre en place différentes manières, différents moments pour de générer une ouverture suffisante pour que des gens plus jeunes viennent nous rejoindre, des gens plus jeunes ou des gens qui sont peut-être moins fatigués que nous. Et que c'est eux, en fait, qui sont confrontés désormais aux difficultés que peut avoir actuellement un collectif. Dans une situation où effectivement c'est pas évident pour un collectif d'exister et de se développer, mais ça l'était encore moins il y a 20 ans. C'est-à-dire que malgré tout, il y a une évolution, il y a une progression. On est dans une ville à Caen où il y a plusieurs collectifs. Et nous, on est d'une génération où, quand on a démarré le collectif Bazar Nahom, il n'y avait rien, c'était le désert. C'était une ville où il n'y avait pas forcément des propositions le vendredi et le samedi soir, par exemple. Maintenant, il y a beaucoup de propositions le jeudi, le vendredi et le samedi soir, et même tous les autres jours de la semaine. Donc il y a d'abord un constat positif de l'activité qui s'est développée, et la nécessité maintenant de donner la possibilité à des gens qui sont émergents dans ce domaine, qui démarrent, qui sont en devenir, et bien de pouvoir aller encore plus loin. Et là, ça peut coincer un petit peu en termes de financement, en termes d'aide, parce qu'on a cultivé une grande autonomie au Bazar Nahom et dans tous les lieux collectifs, et que finalement, on fait les choses qu'on soit aidé ou pas financièrement. C'est un peu ça aussi, un collectif. C'est on fait les choses, et on le dit beaucoup ici, on fait des choses si on est financé c'est très bien. Si on a un petit coup de main organisationnel, matériel quelquefois en nature ou une mise à disposition comme ça a été le cas par exemple pour le bâtiment qu'on occupe actuellement avec le Bazar Nahum, c'est fort bien, c'est un plus. Mais il faut que toutes ces choses-là soient pérennisées et qu'on ne devienne pas, ou que les gens qui vont reprendre ces outils collectifs ne deviennent pas tout d'un coup gênants ou soient obligés de réexpliquer la démarche. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que ce qui a été accompli eh bien, soit un point de départ pour ce qui va l'être maintenant. Et ça, c'est beaucoup moins évident à faire comprendre. Vraiment, l'essentiel de l'histoire du Bazar Nahum, c'est le fait qu'on ait existé dans trois lieux. Le premier, c'est un lieu où on était toléré, on était squatteur. On était squatteur sur la presqu'île, qui est devenue maintenant un centre commercial. Mais on était dans un bâtiment qui a été détruit depuis, bien sûr, pour construire le centre commercial. Et là, on squattait. Et petit à petit, en jouant sur la patience de notre municipalité, à laquelle appartenait le bâtiment, on a réussi comme ça à s'imposer presque et à générer un collectif, c'est-à-dire étant donné qu'on avançait dans ce lieu, on a eu très peu de place au début, puis on a gratté de la place de plus en plus, et ça nous a permis d'inviter d'autres compagnies, d'autres artistes à venir nous rejoindre pour occuper un lieu quand même proche du centre-ville, hein. C'était pas mal placé du tout. Et puis, il y a eu une fin à ce lieu puisqu'il a été détruit. Et donc, on a été obligé de retrouver un autre lieu. Et là, la solution qu'on a trouvée, c'était de faire alliance, de travailler avec un bailleur privé, c'est-à-dire un propriétaire. On était comme des locataires. On a complètement transformé une ancienne imprimerie dans laquelle il y avait un magasin de musique au rez-de-chaussée. Et du coup, c'était une collaboration très saine et très positive avec quelqu'un qui possédait des bâtiments et nous qui étions en mesure de générer une activité qui lui correspondait. C'est quelqu'un qui était content que ce soit ce type d'activité dans ce bâtiment. Et du coup, on a réussi comme ça, en payant un loyer chaque mois, ce qui n'est pas évident pour un collectif, à exister dans un deuxième fonctionnement qui n'avait rien à voir avec le premier. Par contre, ça nous a donné l'envie directement de passer à autre chose ensuite et de solliciter la mairie pour le coup pour qu'elle mette à disposition un bâtiment pour notre collectif. Et là, on a joué forcément sur le passif qu'on avait, c'est-à-dire sur toute l'activité qu'on avait générée sur un territoire en faisant le bilan de tout ce qu'on avait pu faire au cours de 15 années de collectif dans deux lieux différents avec des fonctionnements différents. On a pu faire valoir auprès de la municipalité de Caen, en l'occurrence, que on avait suffisamment agi pour que potentiellement ils puissent tenter l'expérience avec nous de mettre un lieu à notre disposition. Ça a été long, il a fallu réexpliquer les choses, ça fait partie de la vie d'un collectif que d'expliquer sans arrêt la mutualisation de moyens, le partage d'outils de travail, la notion de non-rentabilité. Toutes ces notions qu'on doit répéter sans arrêt comme ça parce qu'elles sont atypiques, elles sont alternatives et c'est toujours dans cette démarche alternative qu'on s'est inscrit. Alors bien sûr, dans ces démarches, on a affaire à des collectivités territoriales qui sont pas forcément dans ces visions-là. Le ministère, la région, le département. Le département aide en nature, bien souvent, parce qu'on est sur les cendres d'un office culturel local, département du Calvados, qui a été très actif et qui a créé un réseau de diffusion énorme sur le département. La région, parce que c'est quand même des portefeuilles qui sont assez importants et qu'ils aident nombre d'événements, donc forcément on a une relation avec eux, ils sont plutôt sur l'événementiel, les festivals, etc., en termes de financement. Et puis, beaucoup moins par contre sur le ministère, ça on a toujours connu un souci avec le ministère, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre alternatif dans les projets culturels et dans les fonctionnements collectifs est forcément moins suivi par le ministère qui n'arrive pas à nous mettre dans des clous, dans des cases. Très souvent, et ça a été le cas, le ministère conseille des orientations, des modes d'organisation, des modes de diffusion, des modes de communication aux compagnies, aux structures culturelles, mais ne va pas jusqu'au bout dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des cases que le ministère invente, et ces cases-là, on peut pas rentrer dedans. On peut pas, avec un système alternatif, concrètement, prétendre à être aidé par le ministère. Ça se traduit souvent comme ça. Donc est-ce qu'il y aura à l'avenir, je ne le pense pas, une progression de ce côté-là, ou est-ce qu'on sera encore moins aidé par le ministère de la Culture? Je pense que c'est plutôt ça qui se profile, et que l'autonomie qu'on a cultivée jusqu'à présent, on doit la transmettre déjà, comme je disais tout à l'heure, et puis s'habituer à faire preuve d'encore plus d'autonomie. Après, cette autonomie, elle a d'énormes vertus, parce qu'elle elle permet de descendre de pas trop haut quand on a des soucis de financement. Et c'est vrai que pour nous, la marche est moins haute. Et ça peut nous arriver actuellement, en tant que collectif alternatif, de constater que des structures sous tutelle, de l'État notamment, et puis des autres instances culturelles, d'aide culturelle, sont en grande difficulté, avec de nombreux salariés, avec des budgets de production et de financement qui doivent lisser sur l'année, un budget de fonctionnement très élevé, et que du coup ça leur pose d'énormes problèmes, ce qu'on a un petit peu moins quand on est habitué à cette autonomie. Alors là, c'est un peu plus grave, et puis c'est un peu plus tendu en ce qui me concerne, c'est-à-dire que raconter l'histoire d'un collectif, comment on fonctionne, etc., tout ça c'est simple. Envisager l'avenir au vu de ce qui se profile politiquement en France actuellement, c'est beaucoup plus sensible me concernant. C'est à la fois difficile à évaluer et en même temps je pourrais en profiter pour afficher mes opinions politiques et dire que de toute façon on va dans le mur avec le Rassemblement National ou même avec cet extrême centre qu'on fréquente maintenant depuis deux mandats. On a constaté que c'était beaucoup moins simple de toute façon avec cette radicalité marchand des capitalistes, de toute façon, d'imposer notre fonctionnement collectif. C'est vraiment très très compliqué. Mais c'est déjà compliqué avec Emmanuel Macron et tout ce qui véhicule comme idée. On est déjà dans l'adversité. Alors comment on peut imaginer que ce soit pire ? Ça peut l'être par la désorganisation totale. Ça peut l'être parce que je pense que c'est ça qui va arriver, par la négligence du secteur culturel. Ça, on peut avoir très peur de ça, j'arrive pas encore à le dire, avec un État avec une assemblée majoritairement Rassemblement National. Ça peut effectivement être, on peut avoir du mal encore plus à être reconnu. Mais c'est très difficile à envisager. On peut que se préparer. Ce qu'on fait là, nous autres, c'est se préparer à la suite. C'est essayer d'envisager que le pire sur l'élection qui va arriver, et puis commencer à se demander comment on va faire. Alors, en termes de révolte, certes, parce qu'on est aussi habitué sur les lieux alternatifs à avoir un lien direct avec l'engagement politique pur. Donc ça, oui, on s'y prépare, on est habitué à faire des manifestations, à faire des réunions, à aider la CIC et à faire partie de la CIC, qui est la coordination intermittente du Calvados, intermittence dont on ne peut pas se passer. Donc si on touche à un cheveu de l'intermittence, on sera obligé de repartir en croisade. Mais sur le reste, est-ce que c'est pas en consolidant, et on l'a déjà un petit peu fait, en consolidant notre activité, simplement, en la rendant plus forte, encore plus fréquente, en permettant justement cette transmission qu'on essaye de mettre en place, qu'on peut le plus agir, quoi. Maintenir la densité de l'activité culturelle, avec ou sans l'aide de l'État. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça qui va se passer. C'est qu'on va continuer de densifier cette activité à notre manière, comme on peut, avec nos petits bras, avec nos petits moyens, sur le champ d'activité qu'on peut créer. Et puis advienne que pourra. De toute façon, c'est très difficile d'être actif là-dessus. Et une fois de plus, le travail est commencé par Macron et son gouvernement. C'est en place de toute manière. On a le mépris. Avoir Roselyne Bachelot comme ministre de la Culture suivie de Rachida Dati, c'est d'un mépris énorme. C'est de la com, quoi. C'est vraiment manière Macron. Je trouve des noms comme ça qui sonnent, qu'on a. Mais c'est absolument pas. Ça marque absolument pas une envie de travailler concrètement sur le secteur culturel et d'essayer de le développer. On a le mépris. On est catalogué de toute façon comme des gauchistes, même pas radicaux, mais extrémistes. Dès qu'on bouge le petit doigt et dès qu'on émet une idée, de toute façon. Donc on se bat contre toutes ces idées, forcément. Et maintenant, eh bien, être dans le monde de la création, encore plus que de celui du collectif, eh bien, c'est directement être alternatif et directement s'opposer au système gouvernemental en place depuis que Macron est là. Donc ça va continuer comme ça.